Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes d'accord avec ce que vous venez de chanter? Est-ce que vraiment vous pouvez dire oui? Je viens m'approcher de Dieu. Ou est-ce que vous êtes venu? Parce qu'il faut venir. Ou est-ce que vraiment vous dites non, non? C'est sérieux. Je crois que Dieu a des choses à me dire, à me redire, à m'apprendre. Et dans ce culte, je m'approche de Dieu. La parole de Dieu, on peut le dire comme ça, c'est une terre sainte. Est-ce que c'est exagéré, non? Et je pense que spirituellement, nous devons être déchaussés, voyez. Le respect, ce qui fait beaucoup de tort à l'Église, c'est que les gens ne sont pas dans le respect. Et ça fragilise, pénalise l'action du Saint-Esprit. Nous allons aborder ce matin un sujet important. Pour moi, c'est important. Nous allons faire quelques lectures. Dans le livre des Nombres, chapitre 6. Dans le livre des Nombres, chapitre 6, Dieu demandait ceci. Nombres, chapitre 6, verset 22. Ce sont des prières que le Seigneur demande de, nous demande de faire, de formuler, pas de, parce que je n'aime pas trop le mot formuler, mais enfin quand même il tient debout, sur les autres. Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. » Vous la faites des fois cette prière? Vous dites des fois à quelqu'un qu'il te bénisse? Vous le dites? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Nous allons lire dans le psaume 80, c'est un psaume que je vous encourage à méditer, peut-être dans votre culte personnel cette semaine, c'est un soupir, on voit quelqu'un qui veut obtenir la faveur de Dieu, qui veut réobtenir la faveur de Dieu. C'est peut-être le cas pour quelqu'un ce matin. Réapprendre à obtenir la faveur de Dieu. Et dans ce verset 4, à trois reprises, on va lire les trois versets qui nous intéressent, dont ce psalmiste, c'est Asaph, qui dit ceci au verset 4. « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Au verset 8, cette même prière revient « Dieu des armées ». Quand ce mot est utilisé, c'est pour rappeler que c'est Dieu qui combat. C'est Dieu qui doit combattre. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Verset 20. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Je vous encourage à lire toute cette prière, à la méditer. Maintenant, nous allons aller dans le livre des Chroniques, deuxième livre des Chroniques, chapitre 6. Deux Chroniques, chapitre 6. Salomon est en train d'entrer dans le règne. Il parle, il prie, et il sait très bien ce qui amène la bénédiction ou la défaite dans le peuple de Dieu. Alors, on va lire une partie de cette prière pour mieux comprendre le thème que l'on va aborder tout à l'heure. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 24. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leurs pères. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, quand dans ses portes, et quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie, sa douleur et étende les mains vers les cieux, cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants, des hommes. Verset 36. Quand ils pécheront contre toi, parce qu'il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts, que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint, souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Amen. Verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Voilà comment Dieu a réagi à la prière fervente de ce roi qui était en train de prendre la direction du royaume d'Israël, et Dieu a aimé sa prière. Il était conscient, Salomon, il connaissait la loi, il l'avait apprise par son père, et il savait très bien que lorsqu'on pêche, le ciel est fermé. Dieu pardonne, ça c'est évident. Dieu ne se lasse pas de pardonner, mais ça ne règle pas le problème quand même. Ça ne règle pas le problème de l'action puissante du Saint-Esprit. Nous ne nous arrêterons pas de bénir Dieu pour sa tendresse, comme disait M. Olé dans sa prière, pour sa longanimité. C'est un mot qui exprime la patience qui va jusqu'à la souffrance infinie du calvaire. C'est des mots qu'on n'utilise plus, bien sûr, mais ils indiquent énormément de patience dans la souffrance, dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, moi je voudrais ce matin m'adresser à ceux qui veulent voir la gloire de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui sont pas, peut-être vous voulez voir la gloire de Dieu, mais sans payer le prix. Je ne m'adresse pas à ceux qui, comme Hérode, vous vous souvenez que j'en ai parlé, je crois, mardi, qui a fait venir Jésus dans son palais et qui était plein de joie parce que Jésus était dans son palais. C'est clair que c'était une chose. Mais voilà que Hérode a demandé à Jésus de faire un miracle, comme si Jésus distribuait des miracles. Jésus ne lui a rien dit. Il y a beaucoup d'Hérodes dans le peuple de Dieu, des croyants qui aimeraient bien que Jésus soit dans leur maison pour qu'il fasse un miracle. Jésus ne fait pas un miracle comme ça. Les miracles sont aussi le résultat de la souveraineté de Dieu et de la volonté de Dieu. Ne l'oublions pas, ça c'était le sujet de mardi. Mais nous voulons vivre la guérison. Notre pays a-t-il besoin de guérison? Notre ville de Toulouse a-t-elle besoin de guérison? Les chrétiens, certains chrétiens dans cette ville de Toulouse, n'ont-ils pas besoin véritablement d'une guérison spirituelle? N'y a-t-il pas de l'abondance dans la maison du Seigneur? Le ciel peut-il tout à nouveau s'ouvrir? Jésus-Christ a-t-il décrété que le ciel sera fermé maintenant? Moi, je vous dis que tant que le Seigneur Jésus sera assis sur le trône de la grâce, Jésus-Christ sera le même hier et aujourd'hui. Il fera les choses qu'il veut. Voulez-vous découvrir l'abondance spirituelle? Bon. Voulez-vous entrer dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance? Dieu a-t-il des œuvres pour vous? Y a-t-il un feu dont l'Église a besoin de retrouver? Dites-moi, est-ce que nous sommes bouillants comme nous devrions l'être? Question qu'il faut poser avec honnêteté et répondre surtout avec honnêteté. La vie de l'Esprit, n'est-ce pas important dans l'Église du Seigneur? Comment pourrions-nous concevoir de faire l'œuvre du Seigneur sans le baptême du Saint-Esprit? Alors il y a 4 étapes. Je vais en parler d'une ce matin, une et demie. Dans le 2 Chroniques 7-14, il y a 4 étapes. Ces 4 étapes pour que Dieu guérisse, pour que Dieu libère, pour que Dieu manifeste sa gloire. Et il faut s'y appliquer, à respecter ces 4 étapes. Alors c'est quelque chose de collectif, mais c'est aussi quelque chose d'individuel. Si vous avez toujours votre lecture, votre livre ouvert, votre Bible ouverte, vous remarquerez qu'il est écrit, par exemple, au verset 24, voyez, 2 Chroniques 6, voyez, qu'est-ce qu'il est dit? Quand ton peuple, voyez, quand ton peuple sera battu, s'ils reviennent à toi, au verset 24. Au verset 29, qu'est-ce qui est écrit? Si un homme, voyez, si un homme, on voit bien que c'est une affaire collective, nous sommes tous concernés, je m'adresse ce matin à tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, qui vous êtes engagés à avoir Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, vous êtes concernés par tout ce qu'on va partager. Si vous n'êtes pas encore baptisé, si vous découvrez l'Évangile, vous comprendrez un peu à la fin ce à quoi Dieu vous appelle. Donc c'est un problème collectif, si ton peuple ou si un homme, bon parce que Dieu sait que ça concerne tout le monde, mais Dieu sait en fin de compte que c'est une réaction individuelle. Vous le comprenez bien. Il y en a certains ce matin qui sont concernés. D'autres, vous vous dites, bon, moi, s'agit que je sois sauvé, s'agit que j'aille au ciel, ça m'intéresse. Moi, Dieu m'intéresse surtout pour le ciel. Ça tient debout, hein, ça tient debout. Ça tient debout de vouloir rester à côté de Jésus juste pour son salut personnel. Après tout, on n'a pas jugé quelqu'un qui est intéressé que par son salut personnel. Après tout, ça ne nous regarde pas. Mais vous comprenez bien que l'œuvre de Dieu ne va pas se faire avec des chrétiens qui sont intéressés que par le salut personnel. L'œuvre de Dieu va se faire avec des hommes qui vont s'approcher de lui et qui vont chercher à comprendre pourquoi les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Donc ça concerne toute l'Église, l'Assemblée, le corps de Christ en France, et ça concerne chaque individu. Vous devez pouvoir en même temps répondre et parler au Seigneur et dire « Oui, je me sens concerné. Ce matin, je sens que le Seigneur veut me parler. Je sens qu'il y a quelque chose qu'il faut que je corrige dans mon cœur. » Vous avez vu la fin du verset 29 « Et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur. » Parce qu'il y a peut-être des plaies dans votre cœur, des plaies qui sont dues à votre péché, des plaies qui sont dues à cause du péché des autres, à cause de l'amertume des autres, à cause du comportement des autres. Enfin, il peut y avoir des plaies dans votre cœur. Ça arrive souvent. Et il faut absolument reconnaître certaines choses. L'œuvre de Dieu ne se fait pas n'importe comment. C'est pour ça que la Bible dit que la magie fait partie des œuvres de la chair. Où on attend tout comme ça, par l'action du Saint-Esprit. Voyons, on dit, voilà, Seigneur, tu agis. Non, il y a des choses que Dieu fait lorsqu'il y a une attitude de cœur qui correspond. C'est très, très important de le comprendre. Même, et je crois bien sûr que Dieu est le Dieu des miracles. Donc, il faut être honnête. Dans quelques minutes, on va prendre la Sainte-Cène. C'est une occasion extraordinaire d'obtenir la guérison du Seigneur. Une guérison intérieure, une guérison physique également. Mais je reviens sur cette expression, que chacun soit honnête. Dieu regarde à vos cœurs, à mon cœur. Dieu voit dans quel état d'esprit nous sommes ce matin. On peut faire du cinéma avec les gens tant qu'on veut. C'est vrai ou c'est pas vrai? Avec les gens, on peut faire du cinéma. Ça, il n'y a pas qu'à Gaumont qu'on fait du cinéma. On peut faire du cinéma partout. Des acteurs, il y en a partout. Mais avec Dieu, ça ne passe pas. Et malheur aux chrétiens qui font du cinéma pour essayer de paraître. Ce matin, on n'est pas là pour paraître devant les gens, on est devant Dieu. Et avec Dieu, il n'y a pas de cinéma. Ou alors, il y a de l'hypocrisie, ce qui caractérisera quand même l'Église de la fin des temps, puisque Jésus dit qu'elle aura l'apparence de la piété. Donc, elle jouera un rôle. Mais il y a, dans le monde, des hommes et des femmes, des croyants bien sûr, qui veulent voir la gloire de Dieu. Il y en a. Et il y en a ici ce matin, et je m'en réjouis. Donc, que chacun réfléchisse. Que chacun soit honnête. Nous sommes sous le regard de Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas conscients? Pourquoi il n'y a pas de respect dans les églises aujourd'hui? Parce que les gens ne réfléchissent pas. Que dès que deux ou trois chrétiens sont assemblés, Dieu est au milieu. Voilà. Pourquoi il y a des gens qui mâchent du chewing-gum, qui sont là, décontractés Mais parce qu'ils ne réalisent pas la présence de Jésus dans un lieu de culte. Et tout ça, ça pénalise, on va voir certaines choses, pour que nous comprenions bien que le Seigneur, ce n'est pas notre serviteur. Il n'est le débiteur de personne. Et ça, il faut le comprendre. Il est le Seigneur. Si Hérode avait compris ça, je peux vous dire que l'entretien se serait passé différemment le jour où il a eu le privilège de le recevoir dans son palais. Peut-être que vous ne savez pas, peut-être que je ne sais pas dans quel état spirituel nous sommes. Est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien ne sait pas l'état spirituel dans lequel il se trouve? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que Dieu a déjà parlé à des chrétiens? À Laodicée, Dieu n'a-t-il pas parlé à des gens? Ne leur a-t-il pas dit, mais tu ne sais pas? Mais tu ne sais pas? Tu crois que, vous voyez l'illusion c'est ça, tu crois que tu vas bien et tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle. Donc, ça c'est un autre cap. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans bien des églises, les gens ne savent pas dans quel état spirituel ils sont. Il peut y avoir une puissance d'égarement. En principe, ça commence toujours lorsqu'il n'y a pas l'amour de la vérité. Beaucoup de gens sont dans l'égarement, chrétiens et pasteurs, mélangés, pour la simple et unique raison qu'ils ont préféré le mensonge à la vérité. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est une affaire très très grave. Moi c'est un verset que je n'ai pas compris dans les premières années de ma conversion. Et aujourd'hui je le comprends parce que je le réalise. Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs sont dans une confusion totale parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité et Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ce n'est pas Dieu qui l'envoie, c'est eux qui récoltent ce qu'ils ont semé. Quand Dieu dit qu'il les a livrés à l'impureté, à la débauche, à l'homosexualité, ce n'est pas Dieu qui livre les gens à cela. C'est le résultat de leur choix. Et que Dieu nous accorde cette intelligence ce matin de dire, moi j'aime la vérité, parce que premièrement la vérité, c'est le Seigneur Jésus. Et je veux vraiment m'y appliquer. Avons-nous l'amour de la vérité? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui vous autorisez à juger la parole de Dieu? Il y en a des chrétiens, très 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 subtils, qui arrivent à avoir le courage, ou plutôt l'aveuglement, de juger la parole de Dieu. Si vous en êtes là, je vous assure qu'il vous faut revoir votre conversion. Un chrétien qui juge la parole de Dieu est un chrétien qui n'a pas compris véritablement la seigneurie de Jésus-Christ. Il n'y a pas un iota, une virgule, un point dans la Bible qui ne soit pas à sa place. Et rien de ce qui a été écrit n'est pas inspiré. Tout est inspiré. Il faut le comprendre. Alors où en sommes-nous de ces quatre conditions de 2 Chroniques 7, 14? Cela commence par « si mon peuple ». Voilà, le peuple de Dieu, ce n'est pas les catholiques ou les évangéliques. Ce n'est pas les protestants ou les baptistes. Le peuple de Dieu, ce sont tous ceux qui sont passés par la repentance et par la conversion. Il faut bien le comprendre, ça. Pour beaucoup de gens, le peuple de Dieu, ce sont les pentecôtistes, parce que les pentecôtistes sont le dernier réveil accompli sur la terre. Mais je peux vous dire que dans le mouvement pentecôtiste, il y a beaucoup de gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par la repentance et pas passés par la conversion. Le peuple de Dieu, ce ne sont pas, c'est pas une question de dénomination. Le peuple de Dieu est composé de tous les élus. Quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, il fera justice à ses élus. Les élus, ce sont ceux qui ont répondu à l'appel. Il y a des gens qui ont pris le baptême, mais qui ont abandonné la foi. Il y a des gens qui ont pris le baptême, ils s'imaginent que parce qu'ils ont pris un baptême biblique, ils marchent dans la vérité. Vous marchez dans la vérité si vous avez choisi de vous repentir un jour, de vous convertir et de marcher en obéissant à la parole de Dieu. Voilà qui est le peuple de Dieu. C'est sérieux ça. C'est très, très, très sérieux cette affaire. Si mon peuple, Dieu s'adresse à tous les hommes, mais pour que l'œuvre de Dieu soit faite, elle se fait uniquement par le peuple. Ce sont les gens qui sont nés de nouveau. Quand quelqu'un me dit, « Monsieur Gau, vous savez, depuis que je suis chrétien, rien n'a changé. C'est comme avant. » Écoutez, c'est quelqu'un qui n'est pas converti. Il a pris le baptême, il a changé d'église, il était de telle dénomination, il est venu dans notre dénomination, ou il est parti de celle-ci pour aller dans une autre. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on a changé de dénomination qu'on a changé de cœur. Il faut le comprendre, ça. Alors il y a déjà dit, oui, c'est bien, parce qu'ici vous prêchez la parole. Donc je suis dans le vrai, je suis dans la doctrine, parce qu'ici on est à carreau sur la parole. Mais c'est la question qu'il faut vous poser, est-ce que vous êtes né de nouveau? Si vous êtes né de nouveau, vous le savez. Quand un aveugle ouvre les yeux, laissez-moi vous dire qu'il le sait. Quand quelqu'un passe des ténèbres à la lumière, il le sait. Quand quelqu'un a le diable pour père et que tout d'un coup c'est Dieu qui devient son père, moi je trouve qu'il y a quand même un changement. Vous êtes d'accord ou non? Alors si vous n'êtes pas né de nouveau, eh bien vous prenez contact avec moi et je m'occuperai de votre nouvelle naissance. Si mon peuple s'humilie, voilà la première condition. Quelle bénédiction que de s'humilier. Tiens donc, est-ce que pour vous c'est une corvée, c'est une charge de vous humilier ou est-ce que c'est une bénédiction? Voilà, parce qu'il y a des gens, dès que vous le parlez d'humiliation, d'humilité, ça va pas. Hein. Ne commencez pas. Hein. Moi, je vous dis que l'humiliation, c'est une bénédiction. David pouvait dire, il m'est bon d'être humilié. Les gens ne veulent pas s'humilier. Les gens ne veulent pas se rabaisser. C'est eux qui veulent tout diriger. Ils contrôlent tout, même avec Dieu. C'est Dieu qui est le petit mouton et eux, le grand berger de leur âme. Oui, c'est ça. Je fais vite, mais c'est ça. Beaucoup de chrétiens conduisent eux-mêmes leur propre vie. Parce qu'ils n'ont pas commencé par s'humilier. Ils prient, d'accord, mais c'est la deuxième étape. À quoi ça sert de prier si je ne vis pas dans l'humilité? Si je ne choisis pas, ne dites pas comme certains, ah ben moi vous savez, moi c'est mon caractère, vous savez, j'ai hérité ça de mes parents, vous savez, je suis dur, hein. Je suis un dur à cuire moi, vous savez, mais c'est héréditaire. Vous allez dire ça au Seigneur quand vous allez passer devant lui, vous allez voir comment il va passer l'éponge, vous allez voir. Quelle misère! Quand on arrive à expliquer son manque de soumission à Dieu par un trait de caractère que nous aurions hérité de pépé et de mémé. Quelle misère! L'orgueil, c'est ça qui nous pénalise. Dieu fait grâce aux humbles. C'est une loi. Dieu fait grâce aux humbles. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. C'est une loi. La prophétie que j'ai apportée parlait de la loi de la semence. C'est incontournable. Ce que vous semez, vous le récolterez. Mais c'est cet orgueil qui nous détruit à tous, à vous et à moi. Dans bien des cas, on n'est pas orgueilleux 24 heures sur 24. Mais combien de fois ça nous arrive de juger un frère? C'est pas vrai les fois qu'on a vite fait de juger quelqu'un? Alors qu'on ne sait même pas, on n'a pas les tenants, les aboutissants. Et on s'autorise, parce qu'on a un peu de connaissance, à juger la Bible d'ici. Alors, moi, combien de fois je me suis fait piéger? J'en ai honte. Mais c'est pour vous rassurer aussi. Que Dieu nous garde de juger tant qu'on n'a pas tous les éléments. Tous les éléments d'une situation. Quand nous nous comparons inconsciemment, quelle misère. Tout ça, ce n'est pas de l'humilité. Quand on juge la parole, vous ne croyez pas que ce n'est pas le comble de l'orgueil? Sérieusement, je ne sais pas s'il y a un comble dans l'orgueil, mais je pense, moi, que franchement, quand un croyant juge la Bible, il dit, oui, ça c'est écrit, qu'un chrétien ne doit pas se mettre avec une inconvertie, c'est écrit, mais enfin bon, quand même, vous savez, Dieu est tolérant. Et ça commence comme ça. Si vous voulez, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, je vous cite ces comportements où les croyants s'autorisent à juger la parole de Dieu. Que les pécheurs jugent la parole de Dieu, que les pécheurs blasphèment, c'est malheureux. Mais ça tient debout, ça s'explique. Mais qu'un chrétien s'autorise à juger la parole de Dieu, il est vraiment, vraiment dans le rouge. Un chrétien, il est jugé par la parole de Dieu. Ce matin, ce n'est pas à nous de juger la prédication, c'est à la prédication de juger notre âme. Parce que ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi. Si ça venait de moi, vous pourriez dire, monsieur Go, vous n'avez rien à faire sur cette estrade. Mais si ça vient de Dieu, vous pouvez être béni. Si mon peuple s'humilie, et si vous avez du mal à vous humilier, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, c'est que si vous avez du mal à vous courber devant Dieu, c'est que vous n'avez pas réalisé que Dieu, ce que Dieu veut vous donner. Puisque Dieu fait grâce aux humbles, vous comprenez bien que quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'est l'humilité ne réalise absolument pas que Dieu veut le bénir. Car si Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas pour nous casser en deux, ce n'est pas pour nous prendre par le cou et dire « je te tiens ». Si Dieu nous demande quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose à nous donner et que ça passe par là. Vous le croyez mes frères et sœurs? Si Dieu nous dit « mais si mon peuple s'humilie », il n'est pas en train de dire, vous ne le voyez pas là avec un gourdin, en train de dire « celui-là je l'attends au coin de la rue Saint-Guilhem pour lui briser les chines ». Quelqu'un qui ne peut pas s'humilier, qui ne veut pas s'humilier, est quelqu'un qui n'a pas compris ce que Dieu peut faire dans sa vie. Quand quelqu'un comprend que Dieu veut le bénir, c'est une grâce que de s'humilier. Dire « Seigneur, j'accepte. Oui, je juge les frères. Oui, je juge les sœurs. Je le tiens de je ne sais pas qui. En tous les cas, c'est de ma dépendance. Oui, je me compare à ci. Oui, je me compare à l'un. Seigneur, pardonne-moi. » Oui, Dieu fait grâce. Un chrétien qui ne pardonne pas. C'est un chrétien qui ne sait pas ce que c'est que s'humilier. Est-ce que c'est bien de pardonner? C'est pas une bénédiction de pardonner? Le Seigneur a dit, de la même manière que Christ vous a pardonné, là on part du haut niveau, laissez-moi vous le dire, de la même manière que Christ vous a pardonné, vous savez comment Christ vous a pardonné au calvaire, pardonnez. Quelqu'un qui dit je ne peux pas pardonner, c'est de l'orgueil. Parce que si Dieu vous demandait quelque chose que vous ne pouvez pas faire, il ne serait pas Dieu. Celui qui ne pardonne pas vit dans un orgueil, inconscient peut-être, mais c'est de l'orgueil. Parce que Dieu lui demande de vivre dans le pardon, parce que quand on n'est pas dans le pardon, on est dans l'amertume. Et on n'est pas sur la voie de la guérison. Combien de chrétiens sont amers? Combien de chrétiens vivent dans le ressentiment, dans cette misère intérieure? Si le Seigneur vous demande de pardonner, c'est pour votre bien. Parce que Dieu veut vous faire grâce. Dieu peut faire sortir du cœur ce matin tout ce qui ne va pas. Quelqu'un a de l'amertume, Dieu peut-il faire sortir l'amertume du cœur de quelqu'un? Dieu peut-il faire sortir l'angoisse, le chagrin, la détresse et tout ce qui nous agace régulièrement? Oui, Dieu peut le faire. Alors c'est pas mon sujet l'humiliation, mais il fallait quand même en parler un petit peu pour arriver à la suite. Si mon peuple prie, vous savez c'est une chose de prier, mais c'est comme chanter. C'est une chose de prier, ça en est une autre de prier de tout son cœur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas mon but ce matin, la prière. C'est le troisième point qui m'intéresse. S'il cherche ma face, est-ce que vous comprenez qu'il y a une différence entre prier et chercher la face de Dieu? Prier, c'est répandre son cœur. Le temps qu'il me faut parce que j'ai tel fardeau, parce que mon fils est inconverti, parce que ma mère a abandonné le Seigneur, parce que mon voisin est malade et ça me brise le cœur. Je lui ai parlé de Jésus. Alors je prie et je prie pour l'Église et je prie pour les persécutés et je prie pour le peuple d'Israël et je prie pour les frères et sœurs en Irak. Je prie, j'ai besoin de prier. Ça, je dois le faire de tout mon cœur. Mais ne comparez jamais la prière, même la prière fervente, à la notion de chercher sa face. Et là, je vous assure qu'on est dans un souci dans l'Église aujourd'hui. Parce que si Dieu dit « s'il cherche ma face », ça sous-entend qu'on l'a perdu. Si on cherche quelque chose, ça est évident qu'on l'a perdu. Vous êtes d'accord avec moi? On peut perdre la face du Seigneur tout en le priant, tout en l'invoquant et le faisant sérieusement. Oui, un chrétien peut se détourner. Et il prie, mais il ne sait plus ce qu'est la communion. Ah, mais moi, monsieur, je croyais que la communion, c'était le pain et le vin. C'est pas écrit, monsieur, que cette coupe n'est-elle pas la communion au sang? Alors, il y a des chrétiens qui s'imaginent, je prends le pain, je prends le vin, donc ça doit gazer, je suis en communion avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est de la superstition. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent pour prendre le pain et le vin. Je ne suis pas ici, j'espère qu'il n'y en a pas. Si vous venez pour prendre la communion, comme quelqu'un me disait un jour, moi je viens à l'heure de la communion, elle ne vient plus cette personne. Vous vous rendez compte? Cette personne a eu le culot de me dire ça. Monsieur, moi je viens, je prends le pain et le vin, puis je repars à la maison, c'est bon, je n'ai pas besoin d'entendre au sermon. Ah ben, mais c'est bien, c'est super bien. Parce que pour elle, la communion avec Dieu, c'était prendre le pain et le vin. Et c'est dramatique. Parce qu'on s'autorise à prendre des versets n'importe comment. Donc le Seigneur vous pose la question, nous pose la question ce matin. Est-ce que vous avez envie que Dieu vous pose des questions? Pas moi, je n'ai pas de questions à vous poser. Quelle est la communion que tu as avec moi? Je répète, c'est Dieu qui vous la pose, c'est pas moi. Quelle est la communion que tu as avec moi? Deuxième question. Quel est ton bien le plus précieux? Aujourd'hui, répondez dans votre cœur. Vous avez vu, Dieu regarde au cœur. Dieu sait ce qui se passe dans le cœur de chacun. Attendez-vous à ce que Dieu vous bénisse ce matin. Si vous êtes vrai, si vous êtes sérieux, quel est le bien le plus précieux pour vous? En tant que chrétien, notre bien le plus précieux, je l'espère, devrait être notre communion avec le Seigneur. Oui ou non? Dieu vous a donné beaucoup de choses sur la terre. Est-ce que Dieu vous a béni matériellement? Est-ce que Dieu vous a comblé? Est-ce que vous avez à boire, à manger? Est-ce que vous avez un toit? Est-ce que vous avez un lit? Il y a des millions de gens qui n'ont pas ces choses. Est-ce que Dieu vous a béni? Ces choses que Dieu nous a données, il peut nous les reprendre. Vous le savez que Dieu nous a donné, par exemple, la santé. Dieu peut-il me reprendre la santé? Ben oui, vous demanderez au Job et vous verrez pourtant que c'était une pointure. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Il peut nous reprendre, il peut nous les reprendre, nous les redonner. Il peut nous les enlever d'une manière définitive. Ça, c'est quelque chose de son ressort. Mais que jamais, jamais, nous ne perdions la communion avec le Seigneur. Vous êtes d'accord? Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter de vivre avec Dieu sans être en communion avec lui. On n'est pas des machines. Dieu nous a créés avec une personnalité différente à chacun. Un caractère différent. Dieu, on est tous différents, à part les quelques sosies qui pourraient encore. Mais personne ne se ressemble. Vous vous rendez compte que personne ne se ressemble? Vous êtes content de ne pas ressembler aux autres? Vous êtes content de ne pas ressembler aux autres? Ouais. Cette semaine, je me faisais une réflexion. Dieu, il y a 6 milliards et quelques habitants sur la Terre. 6 milliards de personnes différentes. Il faut le faire. Et je me suis posé la question. J'étais sur la rocade. Si Dieu créait des bagnoles, il n'y en aurait aucune pareille. Mais c'est vrai. Vous croyez pas? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais c'est pour montrer la grandeur de Dieu. Est-ce que Dieu est grand? Et on n'est pas des machines. Nous sommes des hommes et des femmes avec chacun un caractère, une personnalité et un plan de Dieu différent. Et si vous avez une communion avec le Seigneur, vous savez qu'il n'y a rien qui peut la remplacer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a rien, et je m'adresse aux chrétiens qui s'en sont arrêtés peut-être à l'étape de s'humilier, dire oui, je m'humilie, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit en premier, je suis d'accord qu'il faut prier de tout son cœur, mais chercher sa face, je réalise que j'ai jamais eu cette bénédiction, et que c'est pour ça que je préfère plein de choses, je préfère les choses du monde, mais c'est clair. Ne vous étonnez pas que certains chrétiens préfèrent les choses du monde, préfèrent le monde à la communion. Ils ne l'ont pas connu. Tant que vous n'avez pas connu quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est. Derrière moi, on me posait la question, mais est-ce que vous avez déjà fait ça? Non. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais si vous saviez, quand on est plongé là-dedans, comment on est malheureux. J'ai dit, mais je ne peux pas vous comprendre. Je n'ai jamais touché à ça. Et il y a des chrétiens qui n'ont jamais touché à cette communion. Oui, ils prient. Oui, ils s'humilient. Et c'est déjà extraordinaire, parce que quand même, ils font partie du peuple de Dieu. Mais le diable fera tout pour que nous n'utilisions pas le temps qu'il faudrait pour trouver cette communion avec Dieu. C'est beau la communion avec son conjoint. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien la communion, l'amour d'un époux envers son épouse? Est-ce que c'est bien la communion dans un foyer? Est-ce que ce n'est pas une protection pour un couple lorsqu'un homme est attaché à sa femme, lorsqu'une femme est attachée à son mari? Est-ce que c'est une bénédiction? Bien sûr, c'est extraordinaire. Mais quelle que soit la communion qu'un homme peut avoir avec sa femme, et vice-versa, quelle que soit la bénédiction qu'il peut y avoir dans les relations humaines, il y a des choses que votre femme, que votre mari ne pourra pas vous donner. Et il est là le drame, c'est que beaucoup de gens ont idéalisé par exemple le mariage et ont attendu dans le mariage tout ce qu'ils avaient besoin. Mais il y a des choses, il n'y a que Dieu qui les donne. Et quand on est dans sa communion, c'est ce qui fait la détresse de bien des foyers. Ils se sont trompés, ils ont cherché une femme, ils ont cherché un mari et ils ont idéalisé le couple alors que nous ne devrions pas le faire puisque nous ne sommes pas parfaits. Et c'est une illusion d'attendre des autres ce que seul Dieu peut vous donner. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Et ça, c'est quelque chose que vous obtiendrez dans la communion. Vous ne l'obtiendrez pas dans l'humilité. Dieu vous fera grâce si vous êtes humble. Si vous priez, Dieu répondra à vos prières. Mais dans la communion, il y a cette faveur divine. C'est pour ça que Asaph, dans le psaume 80, exprime son péché, sa misère, etc., les problèmes. Et il dit, mais fais briller ta face. La face, c'est la communion avec Dieu. Fais briller ta face. Et si vous attendez des autres ce que seul Dieu peut vous donner, vous serez toujours malheureux. C'est vrai que dans l'église, dans la famille, dans la vie relationnelle, dans la vie sociale, nous devons recevoir les uns des autres. C'est pas vrai? Il faut que nous recevions les uns des autres. Nous devons nous donner pour les autres. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut absolument que si on a reçu quelque chose, on le communique. C'est évident. Mais il y a des choses, il n'y a que Dieu qui vous les donnera. C'est ce qui explique la misère, utilisons le mot, la misère de beaucoup de chrétiens. Ils attendent, ah j'attends ça, j'attendais ça de l'église, et j'attendais qu'il me visite, il ne m'a pas visité, j'attendais... Mais c'est, tout ça c'est bien, mais est-ce que vous avez déjà été visité par le Seigneur? Et voilà. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui les donne. Moi je le dis aux stagiaires que je forme, moi je peux vous enseigner, mais il y a des choses, c'est il n'y a que Dieu qui vous les apprendra. Il y a des choses, vous les apprendrez par les autres, mais il y a des choses, c'est comme ça, vous ne les apprendrez que de Dieu lorsque vous serez en communion avec lui. Dieu veut cette communion, Dieu veut que nous vivions de cette communion. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui dans les églises. On peut vivre de chants, de prières, d'animation, d'agitation, voyez, d'excitation. On peut vivre de ces choses, mais pas de la communion. On peut remplacer la communion par l'agitation. Vous comprenez pourquoi je tiens à ce qu'il y ait beaucoup de sobriété dans l'église? Que des fois on me dit, mais monsieur Gou, pourquoi on ne danse pas dans l'église? Et bien, je dis, écoutez, moi je pense que pour le moment, ce n'est pas le moment de danser dans les églises. Je pense que c'est plutôt le moment de prier et de pleurer pour le péché de la nation, pour la rétrogradation des chrétiens. Je ne crois pas que c'est le moment de danser. Écoutez, que Dieu me pardonne. Bien sûr qu'on se réjouit. Et c'était beau de commencer par un cantique joyeux. Moi, je suis dans la joie parce qu'on est dans la joie. Et c'est évident, un chrétien, il a la joie du salut. Mais est-ce que c'est le moment de faire danser les pécheurs? Ils sont dans leur péché, dans leur blasphème, dans leur homosexualité, dans leur misère, et on les fait danser. Moi, je crois que les pécheurs, ils doivent être dans une église où ils respirent, qui respire la crainte de l'Éternel. Voilà ce que les pécheurs doivent voir en premier. Et je crois que si on vit de cette communion, nos chants seront magnifiques. Vous ne croyez pas? Que si nous sommes dans la communion avec le Seigneur, nos chants, nos louanges, notre adoration, elle ne sera pas magnifique? Vous ne le croyez pas, mes frères et sœurs? Oui, béni soient les hommes qui s'humilient, béni soient les hommes qui prient. Mais est-ce que je réalise ce matin l'importance de chercher sa face? C'est-à-dire, je prends du temps. Je ne viens pas pour tel problème, je viens pour être avec toi. Je viens me retrouver avec toi. Je t'ai prié pendant 20 minutes, pendant un quart d'heure, pendant une demi-heure, j'ai déposé tous mes fardeaux. Mais là, j'ai envie de rester avec toi. Un cœur vrai, un cœur simple. Donne-moi la joie, Seigneur, de chercher ta face, de trouver ta face. Toi, mon Père, qui es aux cieux. Voilà ce que Dieu veut. C'est chronologique, c'est un principe. S'humilier, prier et chercher la face de Dieu. Et s'y attendre de misère. Pourquoi beaucoup d'églises sont frustrées? Pourquoi l'évangélisation ne marche pas? Pourquoi cette inefficacité? Dans tout ce que les églises font pour le Seigneur, il y a des églises qui s'épuisent à faire des concerts, à faire de l'évangélisation. Mais la stérilité est là. Pourquoi? Parce qu'on fait souvent des choses pour combler le vide. Comme un pasteur me disait un jour, moi je fais mes 3 ou 4 missions d'évangélisation par an, comme ça, je pense que je fais ce que j'ai à faire. Oui, c'est ça, c'est bien. Mais je crois vraiment qu'il ne faut pas faire des choses. Il faut chercher le Dieu qui peut bénir toutes choses. Alors c'est bien les réunions, c'est bien d'organiser des séminaires, mais tout ça, si on le fait d'une manière mécanique, formaliste, religieuse, ça ne marchera pas. Il y a une chose que Dieu veut. Dieu, il veut votre cœur. Tout votre cœur. Ô mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a-t-il tout votre cœur? Attention avant de répondre. Dieu a-t-il vraiment mon cœur? Tout entier. Et le lundi, plus que le dimanche. Il y a des gens pour qui Dieu a le cœur le dimanche matin, de 9h30 à 11h30. Ça s'arrête là. Et ne nous étonnons pas si nous ne voyons pas le réveil. Tout programme, toute activité, tout séminaire, toute agitation ne pourra jamais remplacer la communion avec Dieu. Vous avez entendu, mes frères et sœurs? Jamais, jamais, quelque chose pourra remplacer la communion avec Dieu. Dieu, il veut une chose, il veut le dialogue avec ses enfants. La religion, c'est ça, c'est être relié à Dieu. La communion, en vérité, on devrait utiliser le mot la communication pour comprendre exactement ce que Dieu veut avec nous. Alors peut-être que ce matin, vous êtes un peu étonné par la teneur de cette parole, mais si Dieu permet de temps en temps que sa parole soit comme un marteau, est-ce que c'est pour nous écraser ou est-ce que c'est pour briser la carapace qui nous empêche d'ouvrir, de comprendre, peut-être même d'être guéri? Est-ce que mes yeux sont ouverts ce matin? Qu'est-ce que je vois ce matin? Dans mon esprit, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois ce Seigneur, les bras sur la croix, étendus, ses regards pleins de compassion? Quand j'ai préparé cette prédication hier, moi je voyais le Seigneur crucifié, les yeux pleins de compassion pour vous. Voilà comment je vois cette prédication. Un Seigneur glorifié, assis sur le trône, couronné de gloire et d'honneur, qui n'attend qu'une chose, de pouvoir utiliser un peuple, un homme, une femme, avec lequel il pourra manifester sa guérison, manifester sa compassion. Et si Dieu voit ce matin, dans un cœur, la détermination, Dieu voit si vous êtes en train de vous endormir ou si vous êtes déterminé. Dieu voit si vous attendez la fin du culte ou si Dieu voit là s'il y a quelqu'un comme Dieu voyait David lorsqu'il a égorgé un lion. Il a dit, mais ce jeune homme, il défend ce troupeau, il défendra mon peuple. Et voilà. Et Dieu voit s'il y a quelqu'un ce matin qui dit, mais c'est vrai, j'ai honte. Eh bien, c'est bien que vous ayez honte. Et ne restez pas là-dedans. Saisissez la compassion de Dieu, l'amour du Seigneur. Mais Dieu voit s'il y a quelqu'un qui dit, mais c'est vrai, moi les réunions de prière, c'est ma dernière occupation. Eh bien, ça va devenir la première. Si Dieu voit la soif, la faim, la détermination, le désir, il va vous fortifier. Car Dieu fortifie celui qui se confie en lui. Et il va vous dire, persévère. Persévère jusqu'à ce que tu sois baptisé et rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passerait? Très sérieusement, on peut répondre là, facilement. Qu'est-ce qui se passerait si le Seigneur pouvait faire briller sa face sur nos vies? Qu'est-ce qui se passerait dans nos assemblées? Combien seraient guéris? Vous ne croyez pas que si le Seigneur faisait briller sa face, combien seraient guéris? Combien seraient restaurés? Combien seraient délivrés de leur dureté? Je parlais d'esprit de jugement. Peut-être de leur insomnie, de leur misère et d'une multitude de choses qui nous embarrassent alors que nous devrions vivre dans le repos. Seigneur, je veux voir ta face. Je veux voir ta lumière pénétrer mon âme. C'est ça, chercher la face de Dieu. C'est sa lumière, sa parole qui nous envahit. Vous comprenez? La lumière, elle chasse les ténèbres. Vous l'avez vérifié. Le soir, vous arrivez, tac, vous allumez, ça chasse les ténèbres. Et c'est un principe spirituel également. Quand votre cœur est envahi de lumière, les ténèbres s'épaississent. Quand un chrétien est envahi de lumière, c'est pour ça que j'ai commencé en disant, mais il faut respecter la parole de Dieu. Dans beaucoup des églises, pendant que le pasteur prêche, les gens y parlent, ils bavardent, ils commentent la prédication. C'est sûr que c'est très intéressant, mais est-ce qu'on est là pour commenter la prédication? Est-ce qu'on est là pour bavarder? Quand Dieu veut parler à notre âme, qu'est-ce que le Saint-Esprit doit penser dans une église où on bavarde pendant que le pasteur apporte la pensée de Dieu? Mais dites-moi, comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu soit pas attristé? Comment ne voulez-vous pas que certaines choses, dégénèrent? La lumière, elle chasse. Peut-être vos questions que vous vous posez depuis des mois, et pourquoi ci, et pourquoi là? Cherchez la face de Dieu, et je pouvais dire que vos questionnements, ils s'enfuiront. Vos ennuis, vous serez pas dans la nuit, dans la lassitude. Parce que Dieu vous apportera cette abondance. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il ne s'ennuie pas. Vous le croyez qu'il s'ennuie, un chrétien rempli du Saint-Esprit? Toutes les vertus de Dieu se manifestent dans le cœur d'un homme, d'une femme ou d'une église qui se dit « Oui, ce matin j'ai entendu ce que j'avais besoin d'entendre. Seigneur, tu vois, je n'ai pas trop de désir. Eh bien, tu vas me donner du désir. » J'ai pas faim de toi, mais tu vas me donner la faim de toi. Et Dieu va voir, et Dieu va vous aider. Est-ce que Dieu est là pour vous aider ce matin? Oui, il est là pour nous aider. Il est là. C'est pas ça le vrai réveil, au fait? On prie pour le réveil. Mais c'est quoi le réveil? Le réveil, c'est pas des pécheurs qui viennent à l'église. Le réveil, c'est une église qui obéit à Dieu. Et parce qu'une église obéit à Dieu, il y a l'approbation du Seigneur. Dieu ne bénira pas avec des choses humaines. Et je suis profondément peiné quand je vois que même dans notre mouvement, nous cherchons des systèmes, nous organisons des trucs. Et je dis ça pour tous les pasteurs qui m'écoutent, parce que je sais que beaucoup de pasteurs m'écoutent sur Internet. Pour tous les chrétiens qui m'écoutent, je ne le dis pas, je ne suis pas en train de régler les comptes, je ne suis pas en état d'esprit de régler les comptes. Je suis en état de faire comprendre aux gens que ce n'est pas des systèmes, des comités, des chantiers de réforme qui amèneront la bénédiction sur l'Église. Ce qui amènera la bénédiction sur l'Église, c'est la communion avec le Seigneur Jésus. Voilà ce qui amènera la bénédiction. Voilà ce que sera le vrai réveil. Ce n'est pas de faire ci, de faire là, il faudrait changer, il n'y a pas d'argent. Alors il faut de l'argent. Alors, frères et sœurs, quand Dieu bénit, je peux vous dire qu'il y a de l'argent. Quand les gens adorent Dieu, laissez-moi vous dire qu'il donne. Quelqu'un qui adore Dieu, il est en bénédiction à l'œuvre de Dieu. Montrez-moi un adorateur qui ne soit pas généreux, eh bien je veux bien le passer au scanner, croyez-moi. Dieu n'atteindra les gens qu'au travers d'hommes et de femmes qui cherchent sa face. Notre ville, combien de gens vont peut-être se suicider aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des suicides tous les jours à Toulouse? Eh ouais. Que c'est triste, que c'est grave. C'est pour ça que Dieu cherche une église qui persévère dans la prière. La maison du Seigneur doit être une maison de prière. Combien de gens sont dans la souffrance? Combien de gens sont dans la souffrance? Et vous croyez que c'est peut-être le nouveau président qui va régler le problème? Ou la présidente? Vous croyez que ça va se régler avec la politique? Ça se règle avec l'approbation de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Ce qui est important aujourd'hui, ce ne sont pas les primaires socialistes. Ce qui est important aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Voilà comment Dieu peut guérir un pays. Il ne peut pas guérir avec des systèmes politiques. Il ne peut pas guérir avec une réforme, sociale. Quelqu'un me disait un jour, moi je ne comprends pas, la France, c'est le pays de droits de l'homme. Mais je dis, mais tout ça c'est humain. Ça ne peut pas marcher. La 5e République, mais ça ne peut pas marcher. La seule chose qui marchera, c'est quand Jésus sera roi de toute la terre. Là, ça devrait marcher un peu mieux. Laissez-moi vous le dire, mais ne vous attendez pas à ceci. Ne vous focalisez pas sur cela. Focalisez sur la communion avec le Seigneur. Comment on va mener les gens à la repentance? Si nous-mêmes, nous ne nous repentons pas quand c'est nécessaire. Comment allons-nous amener les gens à prier si nous ne prions pas? Comment allons-nous amener les gens à avoir faim et soif de Dieu si nous-mêmes nous n'avons pas soif du Seigneur? Vous êtes d'accord avec moi? Comment? Est-ce que vous avez soif de Dieu? Est-ce que vous avez envie d'avoir une réunion de prière bénie à l'église? Une fois par semaine, est-ce que c'est trop demandé? Demandez aux gens de venir intercéder, de supplier, que Dieu répande un esprit de grâce et de supplication. Comment allons-nous demander aux gens de se détourner de leur mauvaise voie si nous-mêmes déjà, nous ne nous en détournons pas? Vous êtes d'accord avec moi, mes frères? Vous savez, quand Dieu nous éclaire, quand on prie, Dieu ne nous éclaire pas forcément. Quand on prie, on prie, on parle à Dieu et on dépose ses fardeaux et c'est bien. Et Dieu répond. Bon. Mais quand on cherche la face de Dieu, Dieu nous éclaire. C'est pour ça que la 4e condition, c'est s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Nous ne pouvons pas nous détourner si nous ne cherchons pas sa face. C'est pour ça que tant de chrétiens disent, mais moi je vois rien, Dieu me montre rien. Je prie, je lis la Bible. Oui. Mais c'est cette dimension qui manque. Et je crois qu'après avoir prié, mais faites l'expérience. Plusieurs l'ont-ils déjà vécu ça? Dans la présence de Dieu, que Dieu vous a montré quelque chose qui n'allait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà vécu? Enfin, levez la main. S'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça. Oui. Eh bien, heureusement. Après avoir prié, ce temps d'adoration, de quiétude, de paix, le Saint-Esprit peut vous montrer quelque chose. Et c'est ça que Dieu veut. Peut-être que Dieu va vous montrer votre cupidité, Dieu va vous montrer votre rancune, Dieu va vous montrer, je ne sais pas, j'en sais rien, quelque chose. Est-ce que Dieu est capable de montrer quelque chose, même là ce matin? Vous comprenez? Dieu veut plus qu'une bonne réunion. Ah, oh, monsieur Gauss, ce matin, on a eu une bonne réunion. Mais c'est bien. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut un peu mieux qu'une bonne réunion, Dieu veut plus qu'un moment même où on a été touché. Les disciples d'Emmaüs, ils ont eu une bonne promenade. Sur le chemin d'Emmaüs, ils n'ont pas eu une bonne promenade? Mais quand est-ce que leurs yeux se sont ouverts? Quand Jésus est entré dans leur maison et qu'ils ont pris le pain et le vin et qu'ils ont réalisé avec qui ils avaient. Mais moi, je ne veux pas partir touché. Je veux repartir le cœur changé. Je veux changer. Je veux me détourner de mes voies tortueuses. Le Seigneur est en train de me montrer peut-être quelque chose. Là, tout à l'heure, dans 5 minutes, quand on va prendre le pain et le vin. Peut-être que pour beaucoup de chrétiens, se détourner des mauvaises voies, ce sont les choses grossières, vulgaires, la pornographie, l'homosexualité, toutes ces choses grossières. Alors ça, c'est sûr, Seigneur, mais j'espère qu'il n'y a personne dans ce cas ici. Si vous êtes dans ce cas, ne vous attendez pas à être pris quand Jésus va revenir. Mais ce sont des choses peut-être plus subtiles dans votre vie. Des choses que Dieu vous a déjà montrées. C'est peut-être des idoles dans le cœur. Des choses qui prennent la place de Dieu. Des activités qui vous empêchent de vous tenir devant le Seigneur. C'est peut-être un problème dans le couple. Un problème de couple, ça, il faut le régler. Est-ce que ce n'est pas important dans un couple qu'on respecte sa femme? Qu'on respecte son mari? Mes sœurs, est-ce que vous respectez votre mari? Est-ce que vous aimez votre mari? Mes frères, c'est sérieux. Est-ce que vous aimez votre femme? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Est-ce que ce n'est pas un commandement, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église? Et là, on est devant Dieu, on n'est pas là pour se taper dessus. On est là pour que Dieu nous délivre. Seigneur, et mes parents, vous avez vos parents? Il y en a qui ont toujours leurs parents ici? Est-ce que vous les respectez, vos parents? Ou est-ce que vous dites, ah, la vieille, elle débloque?
Et on entend ça dans l'église. Le vieux, il débloque. Ouais. Mes frères et sœurs, moi je suis sûr que Dieu veut bénir notre pays. Et il bénira le pays au travers de l'église. Quelle que soit la dénomination, il bénira le pays au travers d'une église qui cherche la face de Jésus-Christ. Une église où tous nous serons sérieux, où on dira, mais y a-t-il un obstacle dans ma vie? Je ne veux pas être un interdit dans l'église. Je ne veux pas être un objet de scandale. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement. C'est ça le réveil. C'est quand on commence à se dire, mais est-ce que je suis une bénédiction pour l'église? En tant que serviteur de Dieu, est-ce que je suis une charge pour l'Église? Est-ce que je suis une bénédiction? C'est quand même important que moi je me pose la question. Est-ce que pour ma femme, est-ce que je suis une bénédiction? Est-ce que pour mes enfants, je suis une bénédiction? Est-ce que pour le peuple de Dieu qui m'a confié, je suis une bénédiction? Posez-vous la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il me faut régler ce matin? Car je crois que si Dieu, tu me parles de ces choses, c'est parce que tu veux me bénir. Oui, je veux respecter ma femme. Oui, je veux respecter mes enfants. Oui, je veux respecter les frères et les sœurs. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, d'être plein d'affection. Et quand on voit des chrétiens qui ne se parlent pas, laissez-moi vous dire qu'on peut prier pour le réveil. Si vous êtes en bisbise avec quelqu'un, réparez-le. Envoyez un texto, un mail, un coup de fil, un courrier. Faites ce que vous voudrez. Mais si vous dites, ah, moi je ne lui parle plus, moi, pardonnez jamais, on entend ça. Seigneur, envoie le réveil. Nous devons tous nous remettre en question. Est-ce que dans l'église je suis une bénédiction ou est-ce que je suis un frein à l'action du Saint-Esprit? La parole de Dieu, elle est sainte. Elle produit un comportement saint. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on lit la Bible pour la lire, il n'y a rien. Mais quand on commence à ouvrir la Bible, quand on se réalise que c'est la parole de Dieu me remplira de sainteté. La parole de Dieu me remplira de paix. Elle me donnera une nouvelle vision, tiens, de mon couple, de mon foyer, de mes enfants, de l'église, des gens du monde. Je vais voir l'église comme Dieu la voit. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu, il voit l'église comme Dieu la voit. Il aime l'église. Est-ce que vous aimez l'église dans laquelle Dieu vous a placé? Et c'est important, c'est ce que vous pouvez dire. Est-ce que vous pouvez regarder chaque frère et sœur et dire, mais je l'aime, oui je l'aime, j'ai rien contre quelqu'un. Voilà, je suis en paix. Seigneur, je veux me détourner de mes mauvaises voies. Je veux me détourner, Seigneur. Je chercherai ta face. Et tu me montreras. Et ça, c'est facile. Vous savez, des fois, vous n'avez qu'à fermer les yeux quelques minutes. Et le Seigneur vous le montre. Je lisais hier ce psaume 90, verset 8. Tu mets à ta lumière, à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Voilà. Peut-être j'ai une dette. Et comme c'est un chrétien qui m'a prêté l'argent, oh, ben c'est un chrétien, c'est... Oh, il a du pognon. C'est pas grave, les 5000 euros que je lui dois, c'est pas grave. Et vous croyez que c'est pas grave? Quand on a une dette, il faut la régler. Il faut la régler. C'est écrit ou non? Est-ce que c'est écrit? Eh oui, c'est écrit. Oh, mais c'est un frère en Christ. Il peut attendre. Il est bourré de fric. Eh ouais, ne riez pas. Parce que c'est ça qui attriste le Saint-Esprit. Et je pourrais prendre des multitudes d'exemples. Hélas, des multitudes d'exemples. Seigneur, montre-moi mes mauvaises voies. Dieu ne va pas vous briser. Dieu va vous bénir. Quand Dieu voit un cœur déterminé, je peux vous dire que ça plaît au Seigneur. Quand dans une église on dit, mais c'est vrai, il faut que Dieu guérisse notre pays. La porte va bientôt se fermer. Le jour vient où personne ne peut travailler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors le temps qui nous reste, le peu de temps qu'il me reste, peut-être que je vais mourir la semaine prochaine. Notre vie ne nous appartient pas? Alors les quelques jours, les quelques mois ou les quelques années qu'il me reste à vivre, Seigneur, que je puisse voir des gens guéris, des gens pardonnés, que je puisse voir du péché effacé, que c'est beau lorsque le péché est effacé. Mes frères et sœurs, baissons les yeux, fermons nos yeux, baissons nos têtes. Je vais demander à Monsieur de Dieu Norbert de choisir quelques frères, s'il vous plaît. Répondez à cette prédication, répondez avec beaucoup d'honnêteté, répondez avec beaucoup de simplicité. Répondez au Seigneur, là, les yeux fermés, mon frère, ma sœur, Dieu est-il en train de te montrer une mauvaise voie? Dieu est-il en train de te montrer, mon frère, ma sœur? Eh bien, dépose-le, demande-lui pardon. Dis à Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, et il aura pitié de vous. Le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Seigneur, apprends-moi à chercher ta face. Je vais réapprendre à m'humilier, réapprendre à prier, et surtout apprendre à chercher ta face. Et vous verrez combien la parole de Dieu est belle, sainte. C'est pour ça que je parlais de nous déchausser spirituellement. Toutes les fois où Dieu s'est révélé, vous avez vu, il leur dit, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ne sommes-nous pas sur une terre sainte quand on lit la Bible? Quelqu'un pourrait-il dire le contraire? Alors ce matin, devant la sainteté de ta parole, oui, je me déchausse. Je suis à nu devant toi. Et je vais prendre ce pain et ce vin, oui, dans la victoire. Je veux être délivré. Tu es en train de me montrer ma négligence, ma paresse. Tu es en train de me montrer mon avarice. Tu es en train de me montrer ma dureté, mon orgueil. Je juge ta parole, moi, qui je suis. Mais que se passera-t-il pour ceux qui auront osé, consciemment ou pas, juger la parole? Ce matin, je cède, oui, je cède. Je l'ai chanté tout à l'heure, je n'avais pas réalisé que c'était plus sérieux que ce que je chantais. Je m'approche de toi, Seigneur. Viens et me parle, oh bénis-moi. Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion, ceux qui sont en paix, levez-vous maintenant à votre place. Levez-vous dans la joie. Vous avez un truc à régler, réglez-le. Vous avez 10 choses à régler, réglez-les.